Voilà. Nous poursuivons ces étapes que je vous ai brièvement annoncées tout à l'heure. Je rappelle pour Gabriel notamment que nous scrutons cette phrase, cette demande du Notre Père, que ta volonté soit faite, qui est vraiment au centre de toute la vie spirituelle chrétienne. Et je vous annonçais qu'il y avait différentes étapes pour aller vers sa volonté, l'entendre et surtout la mettre en pratique, l'enraciner dans nos vies. Nous avons abordé tout à l'heure les trois premières étapes, qui étaient de prendre conscience de la présence de Dieu en nous, prendre conscience de notre état spirituel de manière lucide, sans la moindre complaisance, et notamment des pensées parasites et des passions dévorantes qui peuvent nous habiter, et aussi de l'influence du malin et des esprits malins. Une autre étape étant la résolution de se mettre en chemin. Vous m'entendez? Je ne parle pas fort.
Il y a encore une place ici devant, si on n'entend pas.
Si vous ne m'entendez pas, vous le dites, je parlerai plus fort. La résolution de se mettre en chemin avec l'Esprit et le Christ, inséparables. Et je vous rappelais aussi que les étapes que je vous décris maintenant ne sont pas du tout successives, mais qu'elles sont concomitantes. Toutes ces étapes vont ensemble. Et on peut le prendre par le bout qu'on veut, mais tout le reste suivra, comme la maille d'un tricot. Et de toute façon, je vous le disais aussi, on n'est jamais arrivé au bout du chemin. Ce chemin, c'est la voie spirituelle elle-même. Et donc, nous devons, comme je vous le disais, garder comme un bien précieux l'esprit du débutant qui, mille fois sur le métier, remet son ouvrage, comme disait quelqu'un. Ou encore, comme disait un autre, le Tao est la voie et la voie est le Tao. Le chemin spirituel lui-même est le but. C'est dans le chemin que nous nous transformons. L'étape suivante, c'est de se tourner, enfin pas suivante, mais concomitante comme je vous le disais, de se tourner constamment vers le Christ et d'invoquer constamment l'Esprit-Saint. Faut-il rappeler, je ne pense pas que ce soit nécessaire, le rôle vital, mais vital au sens fort du terme, de notre Seigneur Jésus-Christ dans notre chemin spirituel. Je pourrais le rappeler, c'est ce que je vais faire d'ailleurs, selon deux axes, mais ces deux axes en réalité sont didactiques, pédagogiques. Ce qui compte avant tout, comme vous le savez, c'est de se jeter dans ses bras, en invoquant, en répétant cette merveilleuse prière, Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur. C'est la seule chose qui compte. Mais de manière plus pédagogique, je dégagerai deux axes pour faire ressortir l'importance de notre Seigneur Jésus-Christ dans notre vie spirituelle. Et en particulier dans cette approche que nous essayons de faire de la volonté du Père, de l'accomplissement de sa volonté en nous. Premier axe, c'est de regarder le Christ et de voir comment il vit, agit et parle. Et le deuxième axe, c'est de prendre conscience que c'est lui et lui seul qui nous libère et nous guérit. Lui d'ailleurs qui se désigne comme médecin. Et d'ailleurs, vous l'avez observé dans les évangiles, il ne cesse de guérir. Il n'arrête pas un seul instant de guérir ceux qui se tournent vers lui avec foi. Et cette guérison, si elle passe souvent par le corps, par ce qui est physique en nous, est aussi une guérison psychique, comme on le voit par exemple quand il guérit des gens qui sont possédés, qui sont pris de convulsions, etc., qui ont perdu le sang, je dirais, des réalités, mais elle est avant tout, bien sûr, spirituelle. Et nous le voyons très bien dans un épisode des évangiles qui est bien connu, c'est la guérison du paralytique que l'on descend par le toit de la maison. Vous vous rappelez? Il commence par dire « tes péchés te sont remis ». un paralytique, et les spectateurs l'attendent aussi, attend autre chose que la guérison des péchés. Il espère pouvoir marcher. Et le Christ dit, eh bien, comme vous voyez, que je vais vous montrer que le Fils de l'homme a le pouvoir de remettre les péchés, alors il revient en arrière quelque part et il guérit aussi le corps. Mais il a montré que la guérison fondamentale, c'est la guérison spirituelle, la remise des péchés. Mais, comme je viens de le dire, tous ces aspects de l'être humain sont liés, corps, âme, esprit. Alors, la première approche, c'est, pour nous orienter dans le bon axe, de tourner notre regard vers le Christ. Comment agit-il? Comment parle-t-il? Nous pouvons le prendre comme modèle de nos pensées, de nos actes, de notre vie. Il ne s'agit pas d'appliquer ce que nos générations de grands-parents, etc., lisaient, vous savez, d'imitation de Jésus-Christ. Ce n'est pas tellement ça dans la tradition orthodoxe. Il ne faut pas imiter le Christ, c'est un mauvais mot, mais il faut le contempler et voir comment il est, comment il vit, comment il parle. Et nous voyons alors en le contemplant que toute la vie du Christ manifeste une attitude fondamentale, tout le temps. C'est le choix libre et conscient d'accomplir toujours la volonté du Père. Il insiste à de très nombreuses reprises sur cette attitude. Je suis descendu du ciel non pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Ma nourriture, dit-il aussi, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, d'accomplir son œuvre. Ma nourriture, c'est fort comme image. Et cette scène bien connue dont on reparlera dans quelques instants, au jardin de Gethsémani, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et on pourrait croire, et on l'a cru, mais à tort dans l'histoire de l'Église, que le Christ, au fond, n'avait pas de volonté humaine. Puisqu'il est une personne divine, par définition, il est entièrement soumis au Père, il a lui-même sa propre volonté, qui est une volonté divine, la même que le Père. Et donc, il ne lui aurait pas été difficile, au Christ, homme-Dieu, il ne lui aurait pas été difficile de faire la volonté du Père, puisque c'est la sienne propre. En d'autres termes, il n'avait pas de volonté humaine. C'est ce qu'on a développé à un moment donné dans l'histoire de l'Église au 7e siècle. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de la christologie, donc de la formation du dogme, l'incarnation, déification, vous rappelez qu'à un moment donné, il y a eu une très grave déchirure dans le corps de l'Église qu'on a appelé le monophysisme. C'est-à-dire que certains dans l'Église disaient que le Christ était avant tout Dieu. Dieu 100% et homme, disons 50%, 30% selon les opinions. Mais avant tout, il est Dieu et il est homme de manière subsidiaire. Et ça, c'était une hérésie qui était prônée surtout à Alexandrie, contre Constantinople, Antioche, etc. Et à un moment donné, ça contrariait très fort les empereurs qui voulaient à tout prix l'unité de l'Empire. Et donc, d'un côté, il y avait une église monophysite, très importante, très grande, qui mettait l'accent sur la divinité du Christ, et de l'autre côté, il y avait Rome, Constantinople, Antioche, etc., qui mettaient l'accent sur les deux natures. Et alors, quelqu'un, un malin de l'époque, s'est dit, au fond, on va trouver une formule de compromis. On va dire que le Christ est vraiment Dieu, qu'il est vraiment homme, mais on va dire qu'il n'a qu'une seule volonté, la volonté divine. C'est ce qu'on a appelé le monothélisme de Téléma, qui veut dire volonté en grec. Et on croyait comme ça avoir arrangé les affaires de tout le monde. Mais il y en a un qui s'oppose de manière virulente à cette pensée, et c'est Maxime le Confesseur. Maxime le Confesseur, qui aura même la langue et la main droite tranchée, coupée, pour avoir résisté à cette pensée dominante dans l'Église à l'époque, qui disait « le Christ n'a qu'une seule volonté, la volonté divine ». Et il s'oppose à raison, Saint Maxime, à cette pensée, parce que si le Christ n'a pas de volonté humaine, il n'est pas vraiment homme comme nous. Il est donc Dieu essentiellement et homme de manière subsidiaire, sans volonté propre. Du coup, son humanité devient passive, tout à fait théorique, puisqu'en lui, il n'y a pas de place pour un conflit entre les deux volontés, ni pour une harmonie entre les deux volontés, puisqu'il n'y en a qu'une seule. Et donc, le Christ n'aurait pas pu choisir, il n'aurait pu que se conformer à la volonté divine. C'est une pensée, comme je vous le disais, tout à fait fausse, puisque le Christ est homme à 100% et Dieu à 100%. Magnifique antinomie. Et plusieurs épisodes de la vie terrestre du Christ mettent en évidence la réalité en lui d'une volonté humaine qui sans cesse s'accorde à la volonté divine. Je vous ai cité, je ne suis pas venu pour faire ma volonté d'homme, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, etc. Alors le premier épisode le plus connu, mais qui est le dernier chronologiquement, c'est le fameux épisode de la Passion, où il demande, en voyant la mort s'approcher, et une mort ignominieuse, d'éloigner cette coupe d'amertume. Et c'est là qu'il va dire ces paroles très fortes, « Non pas ce que je veux, en tant qu'homme qui a peur de la mort, qui est dans une angoisse totale, mais ce que tu veux, Père. » C'est-à-dire, j'accepte le plan divin pour le salut de l'humanité. C'est-à-dire, le passage par la mort. Il y a un second épisode, mais il y en a d'autres, je n'en ai pointé que deux. C'est celui des trois tentations du Christ au désert, où l'on voit Satan qui propose à Jésus de satisfaire les passions humaines, notamment la nourrir son corps qui a faim après tant de jours de jeûne au désert, et nourrir aussi son âme, la soif de puissance qui habite tout l'être humain. Et le Christ va repousser chaque fois les tentations humaines par sa volonté humaine, unie à la volonté divine du Père. Et nous voyons aussi les évangiles nous montrer que le Christ noue sans cesse une relation intime avec le Père. Combien de fois ne dit-on pas, il se retire seul pour prier, c'est-à-dire pour se raccorder, se relier à la volonté divine. Il scrute constamment. La seconde approche, c'est de prendre conscience que le Christ libère l'homme, comme dira saint Paul, pour la liberté. Le Christ est le grand libérateur. Le Christ vient d'abord libérer l'homme du péché, c'est-à-dire de son état d'égarement, de séparation, d'inconscience. Et il vient l'éveiller à une autre réalité plus grande, plus plénière, plus lumineuse, en un mot, comme je le disais tout à l'heure, une réalité plus humaine. Car plus l'homme est uni à Dieu, plus il devient lui-même. Saint Paul a beaucoup parlé de la liberté. Je ne sais pas si ça vous a déjà frappé, mais dans de très nombreuses lettres, il aborde ce thème fondamental de la liberté. Et c'est lui qui dira les paroles les plus fortes dans l'Église qui débute et qui sont restées fortes à travers les siècles. Et notamment celle-ci, « Frère, dit-il aux Galates, vous avez été appelés à la liberté. » Saint Paul est parti d'un constat. Les hommes sont esclaves de leurs désirs, de leurs passions, de leurs pensées désordonnées, comme je vous le rappelais tout à l'heure. Et dans de nombreuses lettres, il donne des descriptions relativement amusantes, si on veut, de toutes les passions humaines, l'ivrognerie, le mensonge, la tromperie, etc. On en a eu une illustration il y a une quinzaine de jours, dans la lettre que lisait Émile, je crois. Il énumère comme ça pendant plusieurs phrases toutes les passions humaines. Et puis, il dit aussi, les hommes sont pris parce qu'ils... Quelle est l'origine de toutes ces passions ? Eh bien, les hommes sont les jouets du malin qui les manipule. Et saint Paul dit, les hommes sont pris dans les pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté, dans l'épître à Timothée. Cela fait penser à un autre passage de la lettre de saint Pierre, cette fois-ci, première lettre de Pierre, que nous disons d'ailleurs dans certains offices, « Veillez et priez, car votre adversaire le diable rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. » Nous avons vu que saint Paul a constaté lui-même que dans sa propre vie, sa volonté est malade. car c'est la loi du péché, dit-il, qui habite en lui, et non la loi de Dieu. Et donc, un des aspects essentiels de l'œuvre du Christ est de nous délivrer des griffes du diable, de Satan. C'est ce que dit l'Épître aux Hébreux. Christ a délivré du diable ceux dont la vie était vouée à la servitude, à l'esclavage. Et il y a une phrase de saint Paul que j'aime particulièrement et qui apparemment est un pléonasme. On a l'impression qu'il répète deux fois la même chose. Il dit dans l'Épître aux Galates, Christ vient nous délivrer, nous libérer pour la liberté. Nous libérer pour la liberté. Voilà une phrase apparemment curieuse. C'est pour la liberté, frère, que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas à nouveau mettre sous le joug de la servitude. Nous libérer pour la liberté. Voilà une formule curieuse qui contient une idée très importante. Le Christ nous libère de l'emprise du malin. En nous éveillant à une autre réalité et en nous redonnant cette liberté que nous avions perdue, parce que notre liberté était confisquée par quelqu'un dont nous ignorons le plus souvent la présence, le diable. Nous n'étions donc plus vraiment libres, et le Christ nous restitue notre liberté essentielle, que saint Paul ailleurs appellera la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Magnifique formule et surtout magnifique réalité. Ce qui veut dire que le Christ nous ayant libérés, nous pouvons à nouveau choisir librement. Choisir le Christ, choisir de le suivre dans un élan d'amour, de confiance. Et cette liberté glorieuse des enfants de Dieu, elle s'étend à toute la création, à toutes les créatures. Saint Paul, dans l'Épître aux Romains, écrit « La création tout entière attend, dans un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. » Donc la révélation des fils de Dieu, c'est nous ça, les fils et les filles de Dieu. « Car la création a été soumise à la vanité, avec l'espérance qu'elle sera aussi affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. » Nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement. La tradition nous enseigne qu'en réalité, la libération apportée par le Christ est bien plus vaste encore que de nous libérer du joug du péché, ce qui n'est déjà pas rien. Le Christ, dit la tradition, vient franchir trois abîmes qui séparent l'homme de Dieu. L'abîme de la différence des natures, la nature divine est totalement différente de la nature humaine. L'abîme du péché, c'est-à-dire de la séparation radicale entre l'homme et Dieu, et l'abîme de la mort. À propos de la guérison de notre nature, voici ce qu'écrivent Alphonse et Rachel dans le livre que je vous ai cité. Le Christ guérit notre nature humaine de l'intérieur. En y descendant, il la libère de ses infirmités et en même temps la régénère et l'illumine. C'est ce que nous chantons à Pâques. En y descendant, le Christ Dieu n'écarte pas la souffrance et la mort pour les remplacer par la vie. Car la souffrance elle-même se transforme en chemin vers l'incorruptibilité et la mort se métamorphose en vie. Voilà une phrase qui vaudrait la peine d'être longuement commentée, mais je ne le ferai pas parce que j'avance, ça nous entraînerait dans les magnifiques méandres de la pensée théologique. Mais enfin, ce qui est important, je pense à retenir de cette phrase, c'est que le Christ n'écarte pas la mort et la souffrance, mais la mort et la souffrance deviennent à travers lui, par lui, des chemins de vie. Par sa mort et sa résurrection, le Christ recrée l'homme. C'est une nouvelle création. Il renouvelle la nature de fond en comble. Il nous est désormais possible de vivre selon notre vraie nature. Et Nicolas Cabasilas dit que Dieu a refondu la nature humaine, comme on refait une statue brisée ou défigurée, en la remettant dans un nouveau moule. Et le moule en question, c'est le Christ. C'est en lui, à son image, que l'homme est remodelé. Et donc, il apparaît clairement de ce que je dis, enfin clairement, c'est peut-être pas clair, hein, mais je l'espère quand même un peu, que nous sommes invités, appelés à nous unir au Christ, qui lui seul nous libère et nous guérit. Cette libération totale est d'ailleurs contenue dans le nom Yeshua, Dieu Sauveur. Et cette libération opérée par le Christ, qui est l'œuvre spécifique du Christ, différente de celle de l'Esprit-Saint, c'est une libération définitive, objective, réelle. Notre nature est totalement renouvelée par le contact avec la nature divine dans la personne du Christ. Je ne sais pas si on a conscience de cette chose si importante. Mais, car il y a un mais, vous le savez, ceci reste à incarner dans notre vie car, heureusement ou malheureusement, nous conservons cette fameuse liberté fondamentale de dire oui au Christ ou de lui dire non, de nous unir à lui, d'accepter ce qu'il nous apporte, son œuvre, son amour, ou de le rejeter. Dieu, dit la tradition, ne peut sauver l'homme sans l'homme. Sinon, il y a longtemps que ce serait fait. Il ne peut nous imposer la moindre guérison de notre être sans notre acceptation libre et consciente, notre participation active. C'est d'ailleurs tout le sens des fêtes de l'Ascension et de la Pentecôte. Vous savez qu'à l'Ascension, le Christ quitte visiblement ses apôtres parce qu'il ne veut pas les contraindre à le suivre. Imaginons un instant que le Christ ressuscité, sur lequel la mort n'a plus aucune prise, reste éternellement sur terre. Qu'est-ce qui se passerait, à votre avis? Il y a 9 chances sur 10 que nous suivions le Christ sans même réfléchir, sans même discuter, sans avoir l'occasion d'exercer notre merveilleuse liberté. Le Christ serait tellement éblouissant, nous serions tellement subjugués par la puissance qui émane de lui que nous n'aurions plus aucun choix de le suivre. Et c'est pourquoi le Christ nous quitte, comme on le dit dans les chants liturgiques, visiblement pour rester invisiblement présent parmi nous et nous laisser libres de le suivre. Mais heureusement, il nous envoie une aide précieuse qu'on appelle, vous le savez, l'Esprit-Saint pour nous aider, nous éclairer, nous guider. Mais à nouveau, malheureusement, nous pouvons totalement ignorer l'Esprit-Saint. Nous pouvons le rejeter, nous pouvons ne pas l'accepter. Nous pouvons ne jamais l'invoquer et retourner à nos habituelles passions, errements, plaisirs divers. C'est tellement plus attirant, vous ne trouvez pas, de jouir sans limite des plaisirs de la vie, d'accumuler des richesses, des connaissances, d'exercer du pouvoir, que de lutter dans la prière, d'exercer ce combat dont je vous parle depuis tout à l'heure, de cultiver la sobriété, l'attention, la vigilance, l'obéissance. Le Christ donc nous quitte de manière visible pour rester invisiblement parmi nous, et maintenant c'est à nous d'agir, à nous de demander ou de ne pas demander la puissance de l'Esprit-Saint, donateur de vie, donateur de grâce, donateur de charisme. Et là il s'agit bien d'un travail à nouveau. On rejoint ce que nous disions tout à l'heure, la prise de conscience, la résolution et le travail personnel. C'est donc un travail sur soi, à la fois personnel, seul, mais avec l'aide de l'Esprit-Saint, et un travail collectif. C'est ce que nous faisons en Église. Et ce travail est un travail de gestation. Rappelons-nous la création qui gémit dans les douleurs de l'enfantement. La création, c'est aussi nous. Elle n'est pas à l'extérieur de nous-mêmes et nous en faisons partie. Nous sommes des êtres créés. Mais n'oublions pas non plus que ce travail est une nourriture. Si ce travail n'était qu'un travail pénible, ce qui est loin d'être le cas, et qu'il ne nous nourrissait pas en profondeur, quel serait l'intérêt de ce travail? Quelle serait sa force? Rappelons-nous que le Christ, notre Seigneur, nous révèle que la nourriture essentielle dont il se nourrit, c'est de faire la volonté du Père. C'est ça qui le fait vivre en profondeur, qui soutient son être, son action, ses pensées, faire la volonté du Père. Et il nous dira, attention, ce n'est pas ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » et qui en restent là pour être bien pieux, bien en ordre, qui entrent dans le royaume, mais ceux, dit-il, qui accomplissent la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc la mise en pratique n'est pas une faculté, mais je dirais, il n'y a pas moyen de passer à côté, sans passer à côté de la volonté du Père. Ce n'est pas une possibilité parmi d'autres, mais une attitude vitale. Deuxième aspect, je vous l'ai déjà esquissé, c'est que l'aide de l'Esprit-Saint nous est absolument indispensable à tous les stades de la vie spirituelle. Je dirais que c'est presque un pléonasme. Peut-on imaginer une vie spirituelle sans l'Esprit-Saint, sans que mon esprit soit éveillé par la présence de l'Esprit? L'Esprit de l'homme, je vous l'ai déjà dit, est cette faculté qui m'est offerte gratuitement d'entrer en contact intime avec Dieu, de capter sa volonté, ses énergies divines, comme un trésor précieux. Comme dit saint Sidoine, quand le Seigneur touche une âme, celle-ci devient toute nouvelle. Mais cela n'est compréhensible que pour celui qui en a fait l'expérience. Et donc, si l'Esprit-Saint touche mon cœur, mon être intérieur, je suis transformé. Je deviens attentif, fécond, docile à la volonté divine. Et ce travail intérieur avec l'aide de l'Esprit-Saint, c'est un travail de labour de ma terre intérieure, pour la préparer à recevoir la semence. Mais quelle semence peut prendre racine sans les semeurs divins que sont le Christ et l'Esprit? Parce que n'oublions pas qu'il y a d'autres semeurs. Le Christ et l'Esprit ne sont pas les seuls qui sèment dans le cœur de l'homme, je vous le rappelais tout à l'heure. Et notre cœur peut donc accueillir aussi, non seulement la grâce, les anges, comme disait un des pères tout à l'heure, mais les pensées mauvaises, les passions. Le Christ lui-même nous met en garde par une très utile parole, très courte, et qui peut-être passe parfois inaperçue. Après avoir chassé les démons d'un possédé, c'est dans Matthieu chapitre 12, le Christ dit, attention, cette maison a été purifiée, nettoyée de fond en comble. Mais, une fois que l'esprit mauvais qui l'occupait est parti, il est possible que sept nouveaux esprits plus mauvais que lui ne viennent l'occuper. Et donc, ce travail de purification intérieure de la maison, il est constant. Il ne faut pas du tout penser un seul instant que, ça y est, j'en suis débarrassé, et maintenant, les portes s'ouvrent et il n'y a plus rien à faire. Et Arnaud Desjardins a dit un jour à Père Alphonse qu'il était, je ne sais pas quels sont les termes exacts, mais inquiet parce qu'il faisait un travail de nettoyage intérieur des êtres qui venaient vers lui. Et il disait à Alphonse, mais je me demande qui va occuper la maison purifiée. Voilà une parole d'une très grande lucidité d'un maître spirituel bien connu et reconnu. Et donc nous pouvons faire preuve aussi d'un zèle ardent, développer une pratique extérieure magnifique, olympique, et pourtant être éloigné de la vraie vie spirituelle. Et c'est le grand orgueil, le grand danger de l'orgueil spirituel. La pire forme de l'orgueil, c'est l'orgueil spirituel. C'est l'orgueil de ceux qui travaillent beaucoup, qui lisent beaucoup l'Évangile, qui fréquentent les offices, qui font tout ce que l'Église recommande de faire, exactement comme les pharisiens le faisaient avec les je ne sais combien prescriptions de la loi, il y en avait quelques centaines je crois, et qui se croyaient arrivés, qui se croyaient parfaits. La perfection n'est pas un mot qui est très prisé dans notre tradition. La perfection, on n'y est jamais, on n'arrive pas à la perfection. Et Dieu nous garde de la perfection d'ailleurs. Le pire, disent les pires, c'est l'orgueil spirituel, l'orgueil de ceux qui ont déjà cheminé et qui se croient arrivés. La conscience s'est éveillée, elle est devenue indépendante et elle se met à planer au-dessus des choses et des autres. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les autres hommes qui sont voleurs, malfaisants, adultères. Ceci est une citation de Luc chapitre 18 et vous aurez reconnu au passage le pharisien qui est suprêmement content de son évolution spirituelle. L'orgueil spirituel se sent arrivé à la perfection, à la sainteté. Il se canonise lui-même. Croire que l'on n'est pas orgueilleux, écoutez bien, ça c'est pas mal du tout, c'est Jean Chrysostome qui le dit. Croire que l'on n'est pas orgueilleux est une des plus claires manifestations qu'on l'est. Et tout ça est extrait du livre d'Alphonse et Rachel, là, ce que je viens de vous lire. Les pères insistent donc inlassablement sur le caractère vital de la grâce des énergies divines qui nous sont communiquées par l'Esprit Saint, sans lequel il n'y a pas de vie spirituelle. Et les saints Séraphins de Sarov, on l'a déjà dit à de nombreuses reprises, rappellent, et non s'affirment, que le but de la vie chrétienne, c'est l'acquisition du Saint-Esprit. C'est dire si c'est important. Et le Christ dira que tous les péchés seront pardonnés, sauf un seul, le blasphème contre l'Esprit Saint. Et pourquoi le blasphème contre l'Esprit Saint n'est-il pas pardonné? Il ne s'agit pas d'une punition, d'une sanction, c'est pas bien. Blasphémer contre l'Esprit, c'est refuser sa présence, refuser son action. Ne pas accepter d'être guidé humblement par lui. Ne pas se laisser inspirer, c'est-à-dire rester dans le noir et on peut dire aussi dans un état d'inconscience mortifère. On pourrait comparer cette situation physiquement à celle de poumons qui refuseraient de se remplir d'air. Qu'est-ce qui se passe en quelques instants? Ils sont gagnés par l'asphyxie. Ou un cœur, imaginons un cœur qui refuserait de pomper le sang. Qu'est-ce qui se passerait? Il se nécrose en quelques minutes. C'est la même chose dans la vie spirituelle si nous refusons ou si nous ignorons. On ne refuse pas nécessairement volontairement, mais on ignore la présence de l'Esprit Saint et on ne l'invoque pas. Et lorsque je lis les textes de Saint Silouane, il insiste, mais constamment, presque à chaque phrase, sur la nécessité d'invoquer l'Esprit Saint. C'est l'Esprit qui nous révèle la présence et l'amour de Dieu pour nous. C'est l'Esprit qui nous fait connaître et aimer le Christ. C'est l'Esprit qui nous donne la grâce divine, qui nous guide, qui nous fortifie. C'est l'Esprit qui nous éclaire sur notre état intérieur et qui nous donne des larmes de repentir. C'est l'Esprit qui nous ouvre les portes de l'humilité. C'est l'Esprit qui nous donne la paix, la joie intérieure. Et c'est l'Esprit qui nous permet d'aimer nos frères et même nos ennemis, ce qui n'est pas une mince affaire. Notre âme ne peut connaître Dieu et son amour sans le discernement de l'Esprit Saint. Je crois que je vais arrêter d'insister, vous avez tous compris le message. Comment percevoir, c'est l'avant-dernier chapitre, comment percevoir concrètement maintenant la volonté du Père dans notre vie de tous les jours? Parce que finalement, tout ce que je vous ai exposé tend vers ça. C'est très beau la volonté du Père, on est bien convaincu que la volonté du Père elle est bienfaisante, c'est ce qui peut nous arriver de meilleur, mais comment la percevoir? Il s'agit d'une question évidemment essentielle. Et pourtant, je ne vais pas m'y attarder longuement, parce que je crois que tout a été dit, en fait. Je vais donc me borner à rassembler les quelques éléments que je vous ai communiqués, quelques éléments de réponse. Et nous verrons, nous voyons que la réponse à cette question est multiforme. Il n'y a pas une réponse. La réponse est aussi variée que la diversité de notre personne, de nos expériences, de nos tempéraments et de nos traditions, si nous suivons d'autres traditions. La première attitude fondamentale, ça je crois vraiment qu'on ne peut pas passer à côté, pour connaître la volonté de Dieu dans ma vie, je dois la demander. Et la demander avec confiance et insistance, avec foi. Et cette demande, qui est une des demandes, comme je vous l'ai dit, essentielles du Notre Père, elle crée en moi progressivement une brèche, une fissure, une ouverture dans ma cuirasse. N'oublions pas ce bon mot si juste et si profond de Michel Audiard, il faut être un peu fêlé pour laisser passer la lumière. Un peu fêlé pour laisser passer la lumière. Eh bien, soyons fêlés pour laisser passer la lumière de l'Esprit Saint. Mais pour demander que la volonté du Père s'accomplisse en moi, il faut évidemment être intimement persuadé, convaincu, jusqu'au plus profond de mon être, que sa volonté est meilleure que la mienne. Si j'ai l'impression que sa volonté, elle est pas mal, ou elle est simplement bonne, ou oui, au cas, le cas échéant, pourquoi pas, à ce moment-là, je crois qu'il ne va rien se passer, parce que ma volonté, qui est si puissante, va toujours prendre le pas. Et donc, être intimement persuadé que sa volonté est meilleure que la mienne, je pense, c'est quelque chose dont nous devons nous pénétrer profondément. Savoir prendre conscience que Dieu ne veut qu'une chose, c'est mon bonheur, ma sanctification, c'est partager sa vie avec moi. Et je suis même incapable d'imaginer le bonheur suprême de l'union avec Dieu que je connaîtrai un jour. Et une telle prise de conscience répétée encore et encore crée progressivement en moi une conviction profonde que sa volonté doit prévaloir sur ma volonté. Un autre élément important, une autre attitude à cultiver de manière constante, c'est de préparer ma terre intérieure en, comme je le disais tout à l'heure, en développant mon œil et mon oreille intérieure, spirituelle. Comme Dieu me parle et que je ne l'entends pas, que je ne le vois pas, il est nécessaire que je, pour m'en rendre compte, pour ne pas rester aveugle et sourd, rappelons-nous les paroles du Christ, ils ont des yeux et ne voient pas, des oreilles et n'entendent pas, que je développe cette acuité auditive et visuelle à sa présence et à sa parole. Et comment faire ce travail de transformation et d'ouverture de mon être? Je vous le redis, mais je ne fais, comme je vous le dis, que répéter les éléments que je vous ai déjà communiqués, en invoquant d'abord constamment l'Esprit Saint. L'Esprit Saint seul peut me donner la lucidité et révéler mon état spirituel comme une lumière qui me donne le discernement. Le Père Sophronie, dans son beau livre, comment s'appelle-t-il ? « Ma vie est la mienne », le titre du livre. Il dit au fond, l'Esprit-Saint, « Sa vie est la mienne ». Et j'ai dit ?«
Ma vie est la mienne ».
Oui, « Sa vie est la mienne ». Il dit, l'Esprit-Saint, au fond, c'est comme une lumière. Et imaginons une lampe de poche, un spot, qui approche ma vie intérieure et qui éclaire mon intériorité qui, en général, baigne dans les ténèbres, le côté sombre, l'ombre. Et mon Esprit-Saint va me révéler tout ce que je porte en moi, de bon et de moins bon. Deuxièmement, non seulement invoquer l'Esprit-Saint tout le temps, mais lui demander de nommer en moi ce qui fait obstacle à l'écoute intérieure. C'est-à-dire me faire prendre conscience de ma peur, de mes conditionnements. Et Dieu sait si nous sommes conditionnés. On croit souvent qu'on agit librement, même dans la liberté extérieure, qui n'est pas celle dont je vous parle fondamentalement, on croit souvent qu'on fait des choix parce qu'on est libre de les faire, et en réalité, on est déterminé par notre éducation, notre passé, des tas de penchants que nous ne maîtrisons pas et que nous portons en nous. Donc, prendre conscience de mes peurs, de mes conditionnements, de mes pensées, de mes passions, et de tout ce travail souterrain que fait en moi l'orgueil, se dresse constamment entre moi et l'Esprit-Saint. Autre aspect important à cultiver, c'est transformer la puissance des passions en énergie spirituelle. Voilà un fameux programme. C'est-à-dire tout ce qui m'enferme en ce qui va m'ouvrir, tout ce qui me rétrécit en me centrant sur moi-même, en tout ce qui m'ouvre, me grandit et qui me fait atteindre à ma vraie stature d'homme vivant. Éveillé. Et aussi, autre manière de progresser, en me faisant aider par d'autres personnes plus expérimentées, plus sages, que Dieu place sur mon chemin. Il peut s'agir de père ou de mère spirituelle unique dans la vie, il peut s'agir aussi de père et mère spirituelle, je dirais fugaces, qui apparaissent à un moment de votre chemin, pendant une minute, une heure, une journée, mais qui me donnent une parole de vie. Je crois que nous avons tous expérimenté ça, ça peut être le facteur, ça peut être celui qui conduit le bus quand nous prenons la STIP, ça peut être n'importe qui à n'importe quel moment qui nous donnera une parole de vie. Et si nous sommes éveillés, si notre oreille est grande ouverte, nous entendrons cette parole et elle fera son chemin en nous. Et nous sommes donc aidés par d'autres personnes. Une autre voie fructueuse aussi, pour accomplir la volonté divine, une voie recommandée par la tradition évidemment de manière unanime, c'est de suivre les commandements du Christ. Alors les commandements du Christ, je dirais, ils ne sont pas difficiles à repérer, il suffit de lire les évangiles. À chaque page, vous avez le Christ qui parle et qui nous donne des conseils de vie. Et donc il s'agit, me semble-t-il, de lire les évangiles non pas d'une manière distraite, en disant « Ah oui, je connais ça, ça fait 45 fois, j'entends le même texte », mais en demandant vraiment avec ardeur au Christ de me guérir, de me parler, de m'indiquer le chemin à travers ses paroles à lui, de me toucher au cœur, de me guider. Cela suppose donc de lire les paroles du Christ, bien sûr, mais de se décider surtout de les mettre en pratique dans ma vie personnelle. Et enfin, je l'ai déjà abordé, mais redisons-le parce que c'est vraiment, à mon avis, ce qui se présentera le plus souvent dans notre vie. Je peux vivre chaque événement, chaque situation, chaque rencontre, chaque lecture, chaque occasion, comme la meilleure pour connaître la volonté du Père. C'est-à-dire ne pas vivre de manière inconsciente à la surface des choses, mais d'être toujours à l'affût, en éveil, en répétant avec ce fameux œil et cette fameuse oreille intérieure dont je vous parlais, les deux grands ouverts, c'est ici et maintenant, Seigneur, que je veux faire ta volonté. Que puis-je faire? Que puis-je dire? Que puis-je recevoir? Que puis-je donner? Que puis-je être pour que ta sainte volonté s'accomplisse en moi? Révèle-le-moi. Alors chaque événement de notre vie, chaque situation, seront vécus à la lumière de l'Esprit Saint comme révélateurs des pensées divines, de la volonté du Père. Le patriarche Chénouda d'Alexandrie disait: dans la simplicité du quotidien, dans l'acceptation totale de ce qui est et des événements qui viennent à moi, je m'unis à la volonté de Dieu et je l'épouse. Je répète cette phrase qui me semble vraiment importante. Dans la simplicité du quotidien, dans l'acceptation totale de ce qui est et des événements qui viennent à moi, je m'unis à la volonté de Dieu et je l'épouse. Mon être s'offre à Dieu comme la bonne terre de l'Évangile. Nous pouvons donc dire chaque jour: Père, révèle-moi ta volonté, par la grâce de l'Esprit Saint que tu m'envoies au nom de ton Fils Jésus-Christ. Ou encore répéter tous les matins cette belle prière de l'évêque Philarète de Moscou qui dit à chaque heure du jour: révèle-moi ta volonté. Guide mes pensées et mes sentiments dans toutes mes paroles et toutes mes actions, et que je me souvienne que tout événement imprévu l'est avec ton accord. Dirige ma volonté, apprends-moi à prier et prie toi-même en moi. Les deux volontés divines et humaines entrent alors en synergie, comme deux rivières qui unissent leurs eaux. Saint Maxime le Confesseur, dont je vous parlais tout à l'heure, à cette belle phrase: l'homme a deux ailes pour atteindre les cieux. Deux ailes, la liberté et avec elle la grâce. Notre liberté et la grâce de l'Esprit Saint. Monseigneur Jean disait, mon désir, c'est que la volonté divine s'accomplisse, mais elle ne s'accomplira pas si je ne la demande pas. Ce n'est plus simplement l'abandon à la volonté divine, c'est notre volonté qui parvient à la vouloir, à la réclamer. Et il emploie une belle image parlante, celle des vases communicants. Vous savez, dans les vases communicants, ça se circule, ça se mélange et ça s'équilibre. Il dit, l'âme, sentant qu'elle réalise la volonté divine, prie de plus en plus ardemment. Les deux volontés deviennent des vases communicants. Le mélange ineffable s'établit parce que nous le voulons. La volonté divine devient nôtre progressivement et la nôtre devient celle de Dieu. C'est magnifique parce que ça met les deux volontés sur pied d'égalité. Et ça montre, me semble-t-il magnifiquement, à quel point Dieu aime l'homme. Il veut que la volonté de l'homme s'accomplisse comme l'homme veut que la volonté de Dieu s'accomplisse en lui. Et c'est l'épousaille des deux volontés. Nous pouvons employer une autre image qui est celle du germe qui est appelé à grandir en nous et à devenir un grand arbre. Rappelez-vous cette belle parabole du Christ. Et ce germe, c'est l'image divine en nous qui est appelé à grandir dans ce bel arbre, ce grand arbre immense de la ressemblance. Et nous sommes donc en perpétuel devenir, je vous le rappelais tout à l'heure, l'homme nouveau qui se renouvelle sans cesse. Nous sommes en perpétuel devenir comme la graine qui contient déjà en potentialité tout l'arbre, toute la stature du chêne est dans le gland. Et la sève qui féconde ce germe, c'est notre volonté accordée à la volonté divine, qui nourrit notre dignité d'homme vivant. Et saint Irénée, vous le savez, a dit cette merveilleuse phrase, la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Alors, je vais terminer, enfin presque terminer, par deux belles citations de saint Irénée et saint Jean Chrysostome, qui décrivent de manière poétique, mais vous le savez, la poésie, c'est la meilleure manière de prier. Il n'y a pas de prière, je dirais, non poétique. La poésie, c'est quelque chose qui nous dépasse. Voici d'abord la citation de saint Irénée. « Ce n'est pas toi qui fais Dieu, dit-il, mais Dieu qui te fait. » Si tu es l'ouvrage de Dieu, attends patiemment la main de ton artiste, qui fait toutes choses en temps opportun. Présente-lui un cœur souple et docile, et garde la forme que t'a donnée cet artiste, ayant en toi l'eau, avec un grand E, c'est-à-dire l'esprit, qui vient de lui, et sans laquelle, en temps durcissant, tu rejetterais l'empreinte de ses doigts. Vous voyez, l'argile, quand l'eau s'évapore, l'argile sèche, n'est plus malléable. En gardant cette forme, poursuit-il, tu monteras vers la perfection. Bon, perfection, j'aime pas beaucoup, je vous ai dit, c'est pas tellement un terme employé dans la tradition orthodoxe, mais peu importe. Disons, tu monteras vers la beauté, car par l'art de Dieu va être cachée l'argile qui est en toi. Sa main a créé ta substance, elle te revêtira d'or pur au-dedans et au-dehors, et elle te parera si bien que le roi lui-même sera épris de ta beauté. Et Jean Chrysostome, tel un instrument, tiens-toi prêt pour la main de l'artiste. Ne laisse pas tes cordes se détendre et s'amollir sous l'effet des plaisirs. Serre les cordes, tends-les pour le chant. Rends-toi digne des mains très pures qui se serviront de toi. Et si le Christ se met à jouer sur son instrument, c'est-à-dire toi, alors l'Esprit Saint viendra sûrement, et le miracle qui dépasse tous les autres s'accomplira, l'amour. Pour terminer, vraiment cette fois-ci, je signale deux pièges à éviter dans cette recherche de l'accomplissement de la volonté de Dieu en nous. Premier piège, c'est le volontarisme. Être à l'écoute de la volonté du Père, ce n'est pas se tendre comme un arc, se tendre tellement que l'arc, à un moment donné, il casse. Tant va la cruche à l'eau, ou tant va l'arc tendu, qu'à la fin, il casse, il se brise. Ça ressemble plutôt à quelque chose que nous trouvons magnifiquement développé dans la tradition taoïste et qu'on appelle le non-agir. c'est-à-dire se laisser porter par ce qui nous arrive, se laisser couler dans l'événement, sans y opposer de résistance, et je dirais comme un oiseau se laisse porter par le courant ascendant le long d'une falaise, le courant chaud, ou comme un nageur se laisse porter par le courant qui facilite sa nage. Et donc le non-agir n'est ni une passivité, ni une paresse, ni une résignation, mais au contraire c'est une vigilance douce, une attention et une action sans réaction. Donc, pas de volontarisme, mais le non-agir. Deuxième piège, ne pensons surtout pas que la volonté de Dieu va se manifester dans nos vies de façon spectaculaire. Nous ne sommes pas tous appelés à faire des miracles, ni à entrer dans l'arène en chantant des cantiques pour servir de pique-nique au lion. Il serait d'ailleurs bien orgueilleux de le penser. Il s'agit plutôt d'un lent travail, d'un très lent travail, d'affinement de notre être, de réceptivité, d'écoute, d'humilité, de patience, de persévérance. Celui qui porte du fruit, c'est celui qui persévère dans la prière, dit le Christ. Travail patient que l'Église nous invite à accomplir avec l'aide de l'Esprit-Saint. Et il n'est point besoin de se perdre en des paroles abondantes. Vous savez, une vie spirituelle avec de multiples paroles, comme une source qui coule, la coulée continue, on pourrait dire. Il suffit de répéter, et si on arrive là vraiment, je crois qu'on est au cœur de la vie spirituelle. Saint Macaire d'Égypte disait, il suffit d'étendre les mains et de dire, Seigneur, comme tu veux et comme tu sais. Amen. Alors, si vous avez le temps, je ne sais pas si on aura le temps maintenant, ou la patience, j'ai préparé une série de questions après le troisième exposé que je vous invite, mais vous ne devez pas les regarder maintenant, vous pouvez les prendre à la maison plus tard. Voilà. Et je vous propose de terminer par la prière que j'ai demandé à Barbara de faire passer. C'est une prière qui développe un peu cette demande fondamentale, que ta volonté soit faite. Donc comme on aura la prière, je vous invite à nous tourner vers l'autel et à la réciter ensemble. Vous avez la prière, je ne sais pas par quoi, comment. Donc, je vais que ça prière à fait sur la terre comme au ciel.
Est-ce qu'il en fait Dieu ici?
Eh bien, je veux dire.
En fait, on n'est pas aimé.
Père Céleste, notre Père. Amen. Que ta terre entière s'accomplisse en moi, à chaque heure du jour et de la nuit. Inspire-moi par ton Esprit Saint, révèle-moi ta volonté, guide-moi dans toutes tes paroles, toutes tes pensées, tous tes actes. Parle-moi dans toutes les circonstances de ma vie quotidienne. Fais-moi connaître tout ce qui est en moi et obstacle à ta venue. Tout ce qui me sépare du Christ, notre Seigneur, pour mon fils bien-aimé, tout ce que je m'empêche d'entendre sa parole et de la laisser prendre racine en moi. Ouvre mon oreille intérieure pour que j'entende le murmure de l'Esprit. Comme Marie, ton humble servante, qui par son écoute obéissante est devenue la mère de Dieu et la mère des hommes, ouvre mes yeux pour que je voie la beauté de ton Fils. Et que je suis avec joie en commandant. Ouvre mon cœur avec l'enseignement, Père très saint, qui m'aime comme son enfant, et mort de la passage de la vie, avec le Fils et l'Esprit. Amen.
Je vais la faire.